L'espace public d'hier et d'aujourd'hui. Un podcast célébrant la mémoire locale et le lien social, réalisé avec les élèves de CM1, CM2 de l'école César Vinas de l'Odève et les résidents de la maison de retraite L'Écureuil. Enfants et aînés mêlent leurs voix pour faire résonner les souvenirs, les paroles et l'espace public d'hier et d'aujourd'hui. Mais avant d'écouter le podcast, on retrouve au micro Marie, de l'association Du Grain à Moudre, à l'initiative de ce projet, Aurore Lafont, bibliothécaire à la médiathèque Confluence, Bruno Mabila, enseignant à l'école César Vinas, et ses élèves, Sarah, Simon, Marcus, Anthony et Areski.
Du coup, on est une association qui travaille sur l'éducation populaire et la formation des animateurs jeunesse, principalement. Donc, on monte beaucoup de projets européens autour d'Erasmus, où il y a des animateurs jeunesse de tous les pays qui viennent travailler autour d'une thématique. Et là, c'est un projet un peu exceptionnel, ce projet de podcast, pour avoir une implantation locale un peu plus forte.
C'est l'association Du Grain à Moudre, donc Marie, qui est venue voir la médiathèque pour nous présenter ce projet. Et ensuite, l'idée, c'était de mettre en relation à la fois une classe pour avoir des enfants, du coup, et des personnes âgées. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les pattes de l'écureuil, pour mettre en relation tout ce beau monde. Et l'idée, c'était à la fois d'explorer l'outil audio, le format audio, et à la fois de faire quelque chose qui soit intergénérationnel et d'avoir vraiment un partage d'expérience. Et donc la thématique centrale qui a été autour de tout ça, le lien, c'était l'espace public. Voilà.
On a fait 6 séances du coup avec les enfants. Il y a eu une première séance qui était plutôt sur qu'est-ce que c'est l'espace public, parce que c'est pas une notion forcément évidente pour des enfants de 10-11 ans. Ensuite, on a fait une séance sur qu'est-ce que c'est les personnes âgées, parce que c'est pareil, tu serais dans les personnes âgées pour les enfants par exemple si on ne définit pas ce que c'est. Et ensuite, on a fait 2 séances qui étaient plutôt autour de l'utilisation du matériel audio, de comment poser des questions, d'avoir de l'aisance à l'oral, etc. On a fait 2 séances à l'EHPAD avec les personnes âgées pour qu'ils fassent les interviews. Et là, on a fait une dernière petite séance de bilan avec, en leur montrant rapidement comment ça se passe le montage pour qu'ils aient une idée de comment est fini le produit. Et voilà, ça s'est très bien passé. Les enfants, ils étaient très enthousiastes sur toutes les séances. Les rencontres avec les personnes âgées étaient vraiment très belles. C'était des chouettes moments de partage. Et voilà, on est plutôt très contents tous, je pense, du partenariat qui s'est mis en place.
On a expliqué aux enfants qu'est-ce que c'est qu'un podcast. On leur a montré le matériel parce que c'est pas évident pour eux savoir s'enregistrer. Par la suite, on s'est posé des questions sur qu'est-ce que c'était que l'espace public, parce que ce n'est pas évident pour les enfants non plus. Et là, ils ont élaboré des questions qu'ils pourraient poser sur comment c'était avant. Et après, nous sommes allés les poser aux personnes de l'EHPAD. Voilà, ça, c'est des séances différentes. Alors, ils ont été très intéressés parce que le témoignage des personnes âgées était quelque chose qui était très intéressant. Même sur des petits faits insignifiants, ça les a intéressés. Ça les a énormément intéressés d'arriver à voir qu'est-ce que c'était qui était vraiment très ancien ou pas très ancien, parce que pour eux, ils pensent que les personnes âgées ont connu le Moyen-Âge, hein, c'est souvent le cas. Donc là, ils ont compris que non. Ils étaient beaucoup d'interrogations sur la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il avait connu, comment ça s'était passé, c'est revenu très très fort. Ils se sont rendus compte que des personnes âgées avaient connu la Seconde Guerre mondiale. C'était pas si loin que ça. Ça c'est revenu souvent. Et par rapport à l'espace public, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ça n'avait pas beaucoup changé. Parce qu'en fait, entre ce que les enfants racontaient, et on l'entend dans le podcast, on avait pareil, des enfants qui jouaient beaucoup dans la rue, ou des parents qui ne laissaient jamais leur enfant jouer dans la rue, ça a l'air de se ressembler beaucoup. Ça apporte évidemment beaucoup de choses. Alors, en plus de l'histoire, mais d'un point de vue pour le français, ça apporte qu'il faut préparer des questions. Sur l'oral, ça apporte énormément sur l'oral, mais on se rend compte que pour préparer un oral, on a besoin aussi quelque part de l'écrit pour se mettre d'accord. Et les enfants sont très motivés à écrire quand le support est oral. Le support du podcast, c'est quelque chose qui les motive à fond. Écrire pour pouvoir le dire et que ce soit diffusé, que ce soit par la parole, ça les motive énormément.
Je m'appelle Sarah et j'ai 10 ans.
Moi, je m'appelle Simon et j'ai eu 10 ans en mars.
Je m'appelle Marcus et j'ai 10 ans aussi.
Je m'appelle Anthony et j'ai 11 ans.
Je m'appelle Areski et j'ai 10 ans.
Oui, le projet, il était très bien, surtout quand on a parlé et qu'on a posé des questions aux personnes âgées. Mais les jeux, ils n'étaient pas très bien parce que en fait, les personnes âgées, elles ne voulaient pas trop jouer. On avait fait une liste de questions et puis du coup, on leur a posé et elles nous ont répondu.
Et aussi, fallait parler fort parce que à chaque fois, on répétait plusieurs fois parce que sinon, ils n'entendaient pas ce qu'on disait. Il y avait moins de voitures avant, bah, ils pouvaient sortir parfois dehors vu que bah, y avait moins de chances de se faire écraser du coup.
Moi je suis tombée sur quelqu'un, il avait fait presque tous les pays, genre il était forain.
Elle nous a raconté que quand elle allait chercher du fromage à la ferme, et ben elle avait croisé un Allemand et il s'était enfui de la colonne et il a demandé où c'était l'ODEV pour se rendre parce qu'il aimait pas la guerre.
Ils allaient à l'école à pied. Il y avait une personne, c'était pas celle que j'avais, mais elle faisait saumon l'ODEV en vélo pour se rendre à l'école et du coup elle faisait pratiquement une heure tous les jours pour aller à l'école. Et aussi, ils allaient toujours à pied. Pour se rendre loin, ils allaient à pied. Et bah, du coup, il n'y avait pas les voitures. Du coup, c'était plus long.
C'était pas mal parce que c'était une des premières fois et c'était notre premier podcast.
Les échanges, j'ai bien aimé parler avec eux.
C'était bien, mais on voulait juste pas écouter de la toi. Parce qu'on trouvait ça gênant.
Ouais.
Je trouvais que ma voix, quand elle est enregistrée, elle a un son plus bizarre. Et heureusement que j'ai parlé qu'un petit peu, mais... Enfin, c'était bien, mais ma voix, elle était trop bizarre. Elle était aiguë, et parfois elle était grave. C'était bizarre.
Comment les enfants d'hier et d'aujourd'hui vivaient-ils l'espace public ? Les rues, les parcs, les événements ouverts à tous, ont-ils changé d'usage au fil des temps ? Aller à l'école seul, jouer dehors, s'approprier les places et les trottoirs, était-ce plus simple hier qu'aujourd'hui ? À l'école, cet espace central dans la vie des enfants, a-t-elle évolué de sa manière d'accueillir et de favoriser la mixité sociale ?
À travers les témoignages croisés des ateliers de partage, les participants explorent ces questions sous plusieurs angles. Ils évoquent les souvenirs heureux, les jeux, les rencontres, les fêtes.
Ils racontent les espaces emblématiques qui rythmaient leur jeunesse. La place du village, la cour d'école, les bords de rivière.
Mais aussi les secrets, les libertés, les interdits qui marquaient leur époque et façonnaient leur rapport au monde. Ce projet crée une rencontre entre les élèves de César Vinas et
les résidents de l'EHPAD de l'Écureuil,
soutenu par la médiathèque Confluence et l'association du Grain à Moudre.
Nous espérons que ce dialogue entre générations permettra de comprendre comment l'espace public d'hier éclaire celui d'aujourd'hui. Et peut-être imaginer celui de demain.
Où est-ce que tu as grandi ?
Moi, j'ai grandi à l'ODEV. Moi, j'ai grandi en Italie, après, je suis partie à l'ODEV en France.
Moi aussi, j'ai grandi à l'ODEV.
J'ai grandi à Saint-Étienne de Gourgas, qui est un village à 7 km de l'ODEV.
À Montpellier.
J'ai grandi à l'ODEV.
J'ai grandi à la rue des Oliviers.
J'ai grandi aussi à l'ODEV.
J'ai grandi à Oran, en Algérie, avant de venir en France.
À Octon. Octon, c'est à 3 km du lac du Salagou. Ouais. C'est pas loin.
Voilà. Dans le Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand.
Ici, à l'ODEV.
Alors, moi, j'ai grandi à Toulouse, en France.
À Alès, dans un petit village, c'est le département à côté.
Et avais-tu un endroit préféré dans la ville ?
Quand tu es dans l'ODEV, quel lieu tu fréquentes ?
Est-ce que dans l'ODEV, il y a des endroits où vous vous retrouvez avec vos amis ?
Alors en fait, moi j'étais plutôt de la campagne. Moi c'était un tout petit village. On venait à l'ODEV une fois par semaine, souvent le jour du marché, comme aujourd'hui le samedi, pour faire les courses, et surtout pour rencontrer les voisins du village ou de l'école. À vrai dire, c'était un petit village, tout le monde se connaissait.
Nous, moi j'habitais à Oran pendant assez longtemps, et je voyais mes copines dans la rue. on allait se promener. Alors, un peu plus loin que la maison, il y avait une grande place. Et on jouait là, on jouait à marelle, au ballon, enfin, on était très libres.
Je fréquente un peu le skatepark et le marché.
Et vous ?
Eh bien, moi, dans mon quartier, j'avais que des petits copains, des petits voisins. Deux, j'en avais. Et moi, j'étais seule. Et je ne pouvais pas m'amuser toute seule, quand même. Et c'était eux qui disaient à leur papa, à leur maman, je m'appelle Aline, on va la chercher, Aline, pour qu'elle joue avec nous. On ne peut pas la laisser seule. Et j'allais jouer avec deux petits garçons qui étaient de mon âge. Et j'étais contente. Hein.
J'aime bien la médiathèque de l'Odev.
J'aime bien le cinéma Lutéba.
Moi aussi, j'aime bien le cinéma Lutéba.
C'est-il le grand parc et le petit parc?
Le city à Montfort.
J'aimais beaucoup la médiathèque parce que c'était calme et tout. Mais je préférais le skatepark parce que c'était public et on pouvait faire du foot, de la trottinette, plein de choses comme ça.
Bah, j'aime bien traîner dans le marché parce qu'en général, on voit des amis, on peut se rencontrer. En plus, des fois, il y a des stands bien dans le marché.
Alors, à l'époque, c'était un peu différent d'aujourd'hui. On n'avait pas toutes les technologies. Moi, à l'époque, j'allais à l'école à pied tout seul, dans la campagne, sur les chemins, on va dire. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, mais jusqu'au lycée Joseph Vallot, à 13-14 ans, j'allais toujours à l'école à pied. Alors, à vol d'oiseau, c'est pas très loin, mais on va dire que ça fait à peu près 5 km. C'est-à-dire, en marchant normalement, une petite heure. Une heure pour aller à l'école et une heure pour revenir le soir.
Non. Je me rappelle, j'allais plutôt ce qu'on appelait le patronage, où il y avait des religieuses et on pouvait faire des activités, quoi.
J'aime bien aller en ville avec mes potes. On fait des cache-cache dans ma vie.
Ben, moi, je vais au city, je fais des cache-cache chez Denis.
Moi, je fais des cache-cache dans mon quartier.
Moi, des fois, de dans les supermarchés.
Moi, des fois, je fais des cache-cache dans la ville, à city jusqu'à la bibliothèque.
Oh, les amis, enfants, je restais à la maison. J'avais pas vraiment des amis. Petite, j'avais pas vraiment des amis.
J'avais des amis à l'école. Et on se rencontrait puisque, tu sais, à Toulouse, dans des quartiers, c'était, disons, comme si c'était des petites maisons parce qu'il y avait plein de gens qui étaient là, qui vivaient là. Et tous les enfants, tous les jours, en sortant de l'école, on se rassemblait, on discutait un peu. Et après, bon, on allait faire ce qu'il fallait pour l'école. Et voilà, mais ça se passait très bien. Très, très bien. Tu vois, alors qu'on soit espagnol, français, allemand, n'importe quoi, arabe, ce qu'il faut, c'est s'aimer, s'entraider. Voilà, et c'est ce qu'on faisait. C'était pas la même vie que maintenant. Tu sais, à cette époque-là, c'était l'après-guerre. Et on s'occupait beaucoup, même des mamies, dans le quartier. On allait les voir. On allait demander si elles avaient besoin de faire des courses. Tu vois, on s'occupait des autres. On faisait des petits goûters le long de la rue. On buvait un café.
Quel événement t'a marqué? Est-ce qu'il y avait des balles?
Il y avait des fêtes, des balles qui se passaient dans des quartiers. Et on pouvait y aller tous, même les enfants pouvaient y aller. Et on s'amusait. Et quand on ne pouvait pas aller plus loin, et bien dans les quartiers, on se réunissait. On faisait des petits gâteaux qu'on sortait sur la place, à la petite place, chaque maison. Et on passait la journée comme ça. Et les enfants ont joué ensemble et les mamans nous surveillaient gentiment.
On a dansé même sur la route nationale. Pour vous dire, il n'y avait pas de voiture, trop de voitures. Hein. On n'était pas dérangés. Il y a des balles dans chaque village après la guerre, là, 45. Ça, c'était des balles un peu dans tous les villages, des fêtes. Hein, et on dansait sur la route. Et même pour la Saint-Jean, on faisait le feu. Chez moi, sur le pont, sur la route nationale. Hein.
Et on dansait, et je vous dis, on n'était pas dérangé du tout par une voiture.
Et quand venaient les premiers bals, papa et maman nous accompagnaient. Voilà, et puis après j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée. Sur la fête de la Saint-Fulcran à l'Odève, là où il y avait les manèges sur le parc. Et je me suis trouvée sur la chenille. Tu sais, la chenille, c'est un... ça tourne comme ça. Et d'un côté, de l'autre. Et j'étais à côté de lui. Et quand c'était de côté, j'étais sur lui. Puis après, c'était lui sur moi.
D'accord. Hein.
Alors, après, eh ben, il m'a dit, écoute, mes parents aimeraient te connaître.
Ah, ben alors, c'était le bon.
Alors, j'en ai parlé à mon papa et à ma maman. Ils ont été d'accord. Et un dimanche, je suis partie avec mon père et ma mère chez... pour ainsi dire, mon futur mari.
Et oui.
Et après, les fêtes, je pense, sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, pour des enfants, moi, je me souviens de la Saint-Fulcran, qui était toujours vers la... un petit peu au moment de la rentrée scolaire, qui était vers la fin septembre, à l'époque.
La cavalcade.
Pourquoi aimes-tu la cavalcade?
Parce qu'il y a plein de jeux où je peux m'amuser avec mes parents et mes copains.
Moi, c'est la fête foraine parce qu'il y a beaucoup de jeux où on peut s'amuser. Parce que c'est drôle, amusant et joyeux.
Et toi?
Moi, j'aime bien aussi la fête foraine parce que j'aime bien les jeux. Des fois, ils vont un peu vite, des fois lentement. À l'UTMA.
À l'école ou au skatepark.
À l'UTVA ou au skatepark ou devant chez eux. Moi, j'aime bien la fête foraine.
Moi, j'aime un petit peu tout.
Moi, c'est la cavalcade. Okay.
J'aime bien Résurgence et la foire en mai.
Je vais à l'Odève pour le petit Taïd et pour le grand, je vais en Tunisie.
Bien les chars. J'aime bien lancer les confettis.
Toujours eu beaucoup de fêtes à l'Odève.
J'aime Résurgence.
Est-ce que tu as vécu la guerre?
Est-ce que vous avez été résistant?
Et oui, j'étais jeune, mais je l'ai connue, la guerre de 1939-1945. J'avais 14 ans, j'étais jeune. Et je savais qu'il y avait beaucoup de prisonniers qui partaient en Allemagne. Ce qui avait changé à Octon, c'était que, je ne sais pas si les jeunes comprendront, on avait le maquis. C'était des maquisards qui vivaient dans les montagnes, cachés. Et ils faisaient de la résistance contre les Allemands. Et alors, les avions circulaient pour surveiller. Il fallait faire très attention. Mais tout s'est très bien passé. On a été prudents, tout le personnel, les enfants, leur papa, leur maman. Tout s'est très bien passé. Ils n'étaient pas loin de mon village, les Allemands. C'est pour ça que quand on a été averti par le maire de notre village, il nous a dit « Attention, il faut faire attention à ce que vous parlez, ce que vous dites. » Parce que eux, ils sont là, ils écoutent, ils observent et puis ils agissent. Alors bon, moi j'avais 14 ans, j'étais jeune. Bon, mais papa et maman m'ont dit « Il ne faut pas parler, il ne faut rien dire. » Et je me suis... j'ai jamais plus parlé à personne. Hein. Je ne voulais pas trahir notre pays. La France.
J'étais trop jeune pour être résistante. J'étais trop jeune. Ça fait que quand la deuxième guerre a éclaté, là, 39, j'avais que 8 ans. Ça fait qu'à l'Odève, on n'a pas eu de bombardement. Il n'y a eu que le maquis. C'est le maquis qui avait fait sauter un pont en descendant de Saint-Pierre. Hein. Ça fait qu'ils ne sont pas passés de ce côté. Ils sont passés de l'autre côté. Ah, mais après la guerre, on a dansé. Ici, quand même, c'était pas dangereux parce que... Bon, on avait eu une colonne allemande qui était passée de l'autre côté, là-bas. Et elle n'est pas passée à l'Odève. Parce que... Et alors, une fois, en allant chercher nos fromages là-haut à la ferme, hein, on a rencontré un Allemand qui s'était échappé de la colonne. Hein. Et bien, il nous a demandé où était l'Odève parce qu'il allait se rendre.
Disons que non, j'avais pas peur, mais il y avait des quartiers interdits. Parce qu'on n'était pas
pendant la guerre d'Algérie. Donc il y avait un minimum. Ma mère, il ne fallait pas qu'on dépasse notre quartier, vraiment notre quartier. Ben, c'est normal.
Je l'ai vécu, mais je m'en suis pas perçue parce que j'étais petite. Mais autrement, oui, j'aurais pu. Ça avait été 2 ans de plus ou 3 ans, oui. J'aurais pu voir la guerre. Mais par contre, je vais te dire, avec ma maman, pour rejoindre mon papa qui était en France et qui avait fait la guerre ici, eh bien, on a traversé tous les Pyrénées à pied pour pouvoir rentrer en France, rejoindre mon papa.
Et il n'y avait pas de moyens de transport ?
Ben non, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien à cette époque-là. Tu sais, celui qui avait une voiture, il était riche à l'époque. Il était riche. Et nous, quand on est rentré d'Espagne, on n'avait rien. On n'avait pas de maison, on n'avait rien. Il a fallu que mon papa travaille, que maman aussi travaille, pour avoir un petit, je ne dis pas une petite maison, mais quelque chose où on pouvait dormir et faire la popote.
Ma ville préférée, c'est l'Odève.
À quel âge avais-tu le droit d'aller tout seul dans la rue ?
Je pouvais sortir dehors toute seule parce que c'était, tu vois, il y avait des petites ruelles et à chaque ruelle, il y avait des petites maisons pour les personnes âgées, etc. Et nous, comme on était toujours là, eh bien, on restait là et ça se passait très bien, très très bien.
À 8 ans ?
Moi, à 7 ans.
Moi, j'ai jamais eu le droit d'aller dans la rue toute seule.
Il n'y avait pas de problème, il ne fallait pas aller trop loin. Mais on y allait en vélo, en vélo. Et puis on était quand même les jeunes. Il n'y avait pas de carte de ramassage comme maintenant. Hein. Donc, je voulais aller en vélo tous les jours, descendre en vélo parce qu'il n'y avait pas de carte de ramassage à cette époque-là. Hein. Et bien nous, c'était le vélo. Et j'étais pas la seule. Au village à Soubès, on était toute une bande hein, qui descendions en vélo. Parce qu'on ne voulait pas être pensionnaire.
On était assez libre. Enfin, nos parents nous surveillaient quand même. Hein.
Moi, des fois, quand je m'ennuie, je fais un tour dans la ville. Enfin, dans la ville un petit peu et je vois s'il y a des amis. Et s'il n'y a pas d'amis, je rentre à la maison.
À 10 ans, oui, j'ai fait des vélos. Oh, au billet.
Mais vous pouviez sortir tout seul à 10 ans ?
Dans le village. Pas tout seul, pas en ville.
Oui.
Enfin, ça dépend où aller.
Oui, voilà. Et des fois, ils nous donnent une limite et on... Enfin, ils nous donnent un endroit, un espace juste où aller et on n'a pas le droit d'aller autant.
Eh bien, disons que dans le village où j'étais, dans mon quartier, on allait à l'école, on n'avait pas un car qui nous amenait à l'école, on y allait à pied. On faisait des fois 1 kilomètre pour se rendre à l'école. Alors, on partait le matin, on mangeait à la cantine à midi, et le soir, on retournait chez nos parents qui venaient nous chercher à l'école. Et on avait des devoirs à faire à la maison. Mon papa et ma maman m'ont recommandé de ne pas m'aventurer toute seule sur les routes. Parce que je courais un danger que je ne comprenais pas à cet âge-là. Voilà. Alors j'étais obéissante, je les écoutais. Et c'était mon papa ou ma maman qui avait le temps de m'accompagner à l'école le matin. Et je mangeais à la cantine et ils venaient me reprendre le soir à 4 heures. Et il fallait que je fasse des devoirs, à me donner des devoirs à faire le soir chez moi.
Moi, j'y vais de temps en temps, tout seul, mais des fois, j'y vais plus souvent avec mes parents.
Et moi, des fois, quand il fait beau, ma mère, elle me laisse aller tout seul à l'école et avec mes potes au stade.
Ben moi, ma mère, elle me laisse aller au skatepark tout seul. Moi, j'ai pas le droit d'y aller tout seul dans la rue.
Avant que mes parents se séparent, j'habitais pas trop en ville, du coup, je pouvais pas sortir, mais sinon.
J'ai pas encore le droit. C'était comment l'école ?
Comment t'habillais-tu pour aller à l'école ?
Il n'y avait qu'une autre classe. C'était qu'une. Et voilà. Il faut dire aussi que j'ai fait une scolarité avec M. Requis. Et M. Requis, l'instituteur, il était très sévère. Et j'ai passé l'examen en train en sixième. Bon, j'ai été reçue, mais comme j'étais souvent malade, l'instituteur a dit, on va la garder, surtout que mon idée, c'était, je ne veux pas être pensionnaire au collège de l'Odève. Et j'ai passé le certificat d'études à 12 ans, et je suis rentrée directement en cinquième. Voilà. J'ai sauté la sixième. Bon, c'était ma scolarité. Et puis alors j'ai passé le brevet, et puis je suis restée. Il y en a beaucoup au brevet qui partaient parce qu'on était au collège de filles. Et ça allait que jusqu'en troisième. Et après, la troisième, je suis restée et pour passer le bac. Et alors, j'étais pensionnaire à l'école, au collège des filles, mais j'allais prendre les cours au collège des garçons. Le lundi, on montait le drapeau et on chantait « Maréchal, nous voyons l'espérance ». Et le samedi, on redescendait les couleurs. À l'école, on avait le mercredi, il fallait faire de la gymnastique.
En Algérie, je m'habillais comme on s'habillait en France, avec un vêtement et puis un tablier. Bon, moi, j'ai vécu mes 17 ans, mais c'était pas différent tellement de la France. Parce que l'Algérie, à l'époque, était française, qu'on le veuille ou pas. Elle était française, et donc on avait les mêmes habitudes que les Français. D'ailleurs, on était Français.
Oui. Quand vous allez à l'école,
oui,
vous avez dit que vous habillez avec un tablier.
Ah oui.
Et qu'un tablier, rien d'autre.
Ah non, j'étais habillée, il y avait une robe. Mais on avait toujours un petit tablier pour les taches d'encre, pour les... Voilà, tu comprends? Alors, comme ça, nos mamans, elles nous enlevaient le tablier, elles nous en remettaient un autre. Et on gardait tout le jour le même linge. Par économie, hein, on ne pouvait pas non plus.
On pouvait s'habiller comme on voulait. On nous laissait libres. Alors, dessous, on était bien habillés. Mais pour travailler, pas se salir avec l'encre,
oui.
On nous faisait mettre un petit tablier.
Vous disiez que vous pouvez vous habiller comme vous voulez, mais vous habillez comment? Une jupe, une robe?
Oui, à ce moment-là, on n'avait pas l'habitude de mettre le pantalon comme on met maintenant.
Ah non, on n'avait pas de pantalon, non.
On mettait une jupe,
robes,
une petite robe, un petit tablier, et on allait à l'école. Et à l'école, quand on arrivait, avant 8 heures, on se mettait en rang, avant de rentrer en classe. On se mettait en rang, le maître ou la maîtresse nous faisait mettre en rang. Et avant de rentrer en classe, il fallait montrer les mains pour qu'on ait les mains propres, pour ne pas salir le cahier. Et ceux qui avaient les mains sales, le maître ou la maîtresse leur disait « Tu vas au lavabo, tu vas te laver les mains parce que tu vas salir ton cahier. » Il fallait être propre.
Là, elle a dit « Et les garçons, ils s'habillaient comment ?»
À ce moment-là...
Des shorts, plus ou moins des shorts.
Oui.
Moi, je parle de l'Algérie, bien sûr.
On mettait des petites robes, un petit tablier.
Oui, mais les garçons, ils mettaient quoi?
Un petit pantalon.
Ils mettaient des pantalons.
Vous avez déjà joué à cache-cache et au loup?
Bien sûr. Hein. Et à sauter à la corde. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on est jeune.
Alors, en fait, à la petite école, jusqu'à la sixième, c'était mixte. Parce que c'était une petite école d'un village. Et ensuite... Au collège, on devenait encore mixte. Et à l'époque, il y avait encore le lycée où il y avait des lycées de garçons et de filles. Mais c'était la fin des lycées où c'était séparé. Alors à l'époque où j'y étais, on était 12 enfants, à savoir qu'il y en avait 2 qui venaient de l'Odève et les 10 autres venaient de la commune. Il y avait à peu près 10 enfants qui avaient 2-3 ans de différence avec moi. Et souvent plusieurs frères et sœurs de la même famille. Imaginez, nous, on avait un seul maître, qui faisait toutes les classes. Et donc, dans la même pièce, il y avait des tables de 2 ou de 4, et on travaillait ensemble. On faisait des petits groupes, un peu comme aujourd'hui. Et donc, à savoir qu'il y avait le CE1, le CE2, le CM1 et le CM2 dans la même pièce. Et moi, donc, la première année où j'étais à l'école, si mes souvenirs sont bons, j'avais 7 ans. Puisque pour y aller tout seul à pied, ils ont estimé qu'avant, j'étais trop petit pour faire la route tout seul.
On fait des maths, du français, de la conjugaison.
Des fois de l'art plastique, on vient ici.
Moi, je joue pas avec les garçons parce que je suis en profil 4, mais je pense que oui.
Comme je dans la cour ou... Bah, en fait, nous, on a un système de profil 4, donc ça veut dire que les personnes qui ont un bon comportement, les profs vont pouvoir leur laisser une confiance pour qu'ils soient seuls dans l'école, dans le sens où ils vont pouvoir, au lieu du temps de la récré, aller dans la classe. On a une salle de musique aussi, une salle de jeux de société.
T-shirt, sweat, j'aime pas les jeans, je mets tout le temps des jogging.
J'aime bien la récréation.
Oui, on jouait ensemble plutôt quand l'année dernière et les années d'avant.
Oh, oui, c'était gentil, on faisait du dessin, du chant, un peu de danse, jeu aux cartes.
À la marraine, ouais. À la poupée, des fois. Ouais.
Les cours élémentaires.
L'école primaire, c'était très bien. À l'école Prosper Gillet. C'est-à-dire, on commençait le matin, c'était pas comme maintenant. C'était la première année d'école, c'était la sixième. Sixième, cinquième, quatrième, on allait jusqu'à la première, qui était l'année du certificat d'études. Au carré, on jouait au carré.
La marraine.
Avec une pierre, voilà, c'est ça. À la corde aussi. En dernière année, on faisait le samedi où on faisait ou couture, ou dessin, ou musique. C'était le samedi. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses en couture, à l'école. Que j'ai su faire les boutonnières, les jours, les ourlets, tout ça.
L'école, quand je suis arrivée en France, tu sais, je vais te dire, quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas du tout le français. Et on m'a mis dans l'école maternelle. Et bien, petit à petit, en écoutant mes petits copains et copines, bien, j'ai commencé à parler un peu français. Puis après, je suis allée à l'école. Et voilà, mais autrement, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français, je parlais espagnol. Oui, c'était une grande cour et on jouait dedans avec des cailloux. Mais où on jouait à la ronde, des choses comme ça.
Est-ce qu'il y avait déjà du béton dans...
Du béton ?
Ouais. Est-ce qu'elle était bétonnée, votre cour d'école ?
Ah oui, oui. C'était pas les cailloux, ouais. C'était bien... Oui.
Raconte-moi une bêtise.
Alors mes parents m'amenaient à Montpellier et sur l'esplanade, en Espagne, il y avait les manèges. Donc j'étais petite à ce moment-là. Donc c'était mon grand-père qui me menait d'un manège à l'autre. Et moi j'adorais les voitures. Et voilà, donc d'une voiture je descendais, voilà. Puis ça a été le moment de partir, alors mes parents sont arrivés, le grand-père a suivi. Et moi, je n'ai pas suivi. Et quand ils se sont arrivés au bout de l'esplanade, ils ont dit, mais où elle est passée ? J'avais disparu. Alors le grand-père a dit, il se pourrait qu'elle soit encore remontée sur les manèges. Parce qu'elle a dit, le monsieur, il me nous connaît. Depuis qu'elle y tourne, elle tourne. Et effectivement, on m'a retrouvé là.
J'ai poursuivi ma sœur avec un bâton que mon petit frère avait taillé et j'ai fait un trou dans la porte.
Ah ben ça m'arrivait.
Et quoi,
bêtise ? Ben des fois, je disais à maman je vais à tel endroit et puis j'allais à l'autre. Ah. Et ça, il ne fallait pas que je le fasse.
Et quel
endroit ? Eh bien, on ne s'était pas bien loin l'un de l'autre. Oui. Mais quand maman me cherchait, elle croyait que j'étais là où je lui avais dit, puis finalement, je n'y étais pas, j'étais à l'autre bout. Et alors, ma maman me grondait. Elle me disait, je veux savoir où tu te trouves, où tu vas et où tu es. Voilà. Ils étaient quand même sévères, nos papas et nos mamans. Fallait obéir.
On allait dans le jardin manger les fraises. On cassait les carreaux.
Bah, quand j'étais petit, j'ai jeté des jouets par la fenêtre. Parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais envie de les donner à des gens. Mais en plus, c'était complètement débile parce qu'en fait, c'était mes jouets préférés.
On allait à l'épicerie, chercher des commissions et on piquait les bonbons.
Mordu ma sœur dans le dos parce que, en fait, j'avais mis sa chambre un petit peu en bazar. Du coup, elle lui a dit, bah, pour te faire pardonner, tu me fais un massage au dos. Et moi, je voulais pas, donc je lui ai fait un massage. Et après, elle avait de la peau, du coup, dans le dos. Et je lui ai mordu le dos. Et maintenant, elle a une trace rouge.
Oui, pendant que j'étais au Maroc, j'ai lancé des pétards pendant un mariage.
Moi aussi, une fois, j'ai laissé des pétards à côté de chez moi. Et ça a eu des problèmes. Moi aussi, une fois, on faisait que de on prend le ballon, elle tape sur les vitres. Il y a des personnages âgés.
Des fois, quand je n'ai pas envie de promener mon chien, et bah, je fais croire à mes parents. Enfin, je monte, je fais la moitié du tour du quartier pour leur faire croire.
Une fois, j'avais pris une pierre et je l'avais lancée sur le pare-brise d'une voiture. Après, je me suis fait punir.
Et à moi, j'ai jamais fait de bêtises dans la rue.
Moi, non, j'ai que fait des bêtises chez moi, mais pas dans la rue. Non, moi, j'en fais pas des bêtises à part chez moi.
J'ai lu dans le carnet secret de ma sœur.
Quand on est petit ou petite, on fait toujours des bêtises en cachette de papa et de maman pour pas se faire gronder.
Si tu crois que je n'ai pas fait des bêtises comme tout le monde, mais pas des grosses bêtises. Les seules bêtises que je faisais, c'est que des fois maman me disait « donne-moi un coup de main pour faire quelque chose » et moi j'avais pas envie, je voulais m'amuser. Mais autrement, des grosses bêtises, non. Mais comme tous les enfants, j'ai fait des bêtises. J'ai cassé beaucoup de choses à la maison en jouant.
Des bêtises comme tout le monde, hein. Comme tous les enfants, plus ou moins, même fait.
L'espace public n'est pas qu'un décor, c'est un terrain de jeu, un lieu de passage, un espace de pouvoir. Un endroit où l'on apprend très tôt quelle place on nous laisse et celle qu'on ose prendre. Pendant ces deux sessions avec les élèves, puis ces deux rencontres entre l'école et l'EHPAD, nous avons vécu des moments de partage qui nous rappellent une chose essentielle. L'espace public nous appartient à tous, mais il ne s'offre pas toujours à nous de la même façon.
Écoutez les enfants parler de leur skatepark. Voir les résidents et résidentes de l'EHPAD raconter leur quartier, c'est déjà déplacer les lignes. Parce qu'écouter, c'est reconnaître. Parce que raconter, c'est reprendre un peu de place. Alors peut-être que demain, les cours d'école, les places, les rues, ne seront plus des espaces à partager comme on peut, mais des espaces à habiter ensemble pleinement. Des lieux où chacun et chacune aurait le droit d'être, de jouer, de parler, de rêver, sans devoir se justifier. Ce projet, c'est une graine. Une graine plantée dans l'idée que l'espace public est un bien commun et que sa beauté réside dans notre capacité à le partager, à le réinventer, à s'y sentir légitime.
Si ces rencontres laissent une trace, qu'elle soit celle-ci. Un pas de plus vers un espace public, plus juste, plus ouvert et vraiment commun. La prochaine fois que vous traverserez une place, un parc ou une cour d'école, demandez-vous, qui s'y sent chez soi et qui, au contraire, doit encore s'y faire une place.
Nous remercions tous les participants, l'école César Funès, la médiathèque Confluence, l'EHPAD L'Écureuil et l'association du Grain à Moudre.
Ce podcast n'aurait pas été possible sans la participation active de Ayou.
Et les...
Pablo,
Noémie,
Marquez,
Anthony,
Sarah,
Safa,
Zineb,
Lilia,
Simon,
Majd,
Françoise,
Gassan,
Johanna,
Eve,
Léonie,
Areski,
Manon,
Laurence,
Emma,
Ayoub,
Navin,
Mila,
Safa,
Wassim,
François,
Purification,
Bernadette,
Alain, Aline,
Anne-Marie,
Jean,
Mounia.